Bonsoir et donc bienvenue si vous nous rejoignez sur O2 Radio, toujours sur la fréquence 91.3. On se retrouve pour notre émission mensuelle Les 4 médias, je le rappelle, c'est une émission en partenariat avec l'Écho des Collines, représentée ce soir par Coraline. Bonjour à toi Coraline.
Bonsoir.
Et Aki.fr, et malheureusement Johan Dénéchaud n'a pas pu être avec nous pour cette émission, mais il y aura bien sûr un article sur ce média Aki.fr sur la thématique de notre émission du mois de janvier que je vais tout de suite vous présenter. Alors, on a souhaité se coller à une triste actualité survenue donc le 2 janvier dernier, où lors d'une fusillade à l'aveugle, un enfant, je dis bien un enfant de 16 ans, a perdu la vie dans un quartier bordelais. Donc c'est dans le quartier des Aubiers. Une triste actualité, mais aussi un cap qui a été dépassé. Ça fait longtemps qu'on entend parler d'une violence peut-être qui est en train de monter. On souhaitait en parler, mais surtout élever le débat, parler plutôt avec des professionnels du terrain. On aurait souhaité avoir aussi une parole politique. Malheureusement, on a essayé en vain, mais ça n'a pas pu se faire. C'est quelque chose qu'on regrette. On espère en tout cas en reparler effectivement avec plusieurs personnes autour de la table, dont une parole politique. Mais là, on va parler avec des personnes de terrain. On va commencer avec vous, Morty. Bonjour.
Bonsoir.
Alors, Morty, vous êtes président d'une association qui s'appelle Diamants des Cités. Donc, vous êtes un militant associatif bien connu, en tout cas dans le monde bordelais, depuis plusieurs années déjà. Votre association, elle est située dans le quartier des Grands Parcs. Déjà, la première question, Morty, je sais que vous êtes très touché par ce qui s'est passé, puisque vous êtes très proche de ces habitants. Comment vous allez-vous, déjà ? Comment ça se passe ?
Ben, suite à, malheureusement, au décès de ce petit jeune, on essaye de remonter un peu la pente. Hein. On essaye aussi de se réunir avec des acteurs associatifs et des militants de quartiers populaires, et notamment pas mal de parents et de grands frères de ces quartiers, donc Grand Parc, Saint-Louis, Les Aubiers. Et pour essayer et de trouver des solutions pour apaiser les tensions qui peuvent exister entre ces quartiers. Mais bon, on est vachement touchés. On est beaucoup sont traumatisés hein, dans ces quartiers suite à ce décès. Donc on essaye de trouver des solutions, comme je vous le disais, avec des acteurs associatifs de ces quartiers.
On va justement en parler un petit peu de ces solutions. On va d'abord commencer par les constats. Je vais présenter notre second invité. Je voulais juste rappeler le prénom de ce petit garçon, parce que effectivement, quand on parle d'enfants de quartier, des fois on oublie que c'est des enfants et que c'est des enfants comme tous les autres enfants. Donc il s'appelait Lionel. Voilà, il avait 16 ans et qui a aussi, on pense bien entendu, aux autres enfants qui ont été blessés, parce que c'est un tir à l'aveugle, malgré ce qu'on a pu faire croire. Hein. Ce n'est pas une vengeance ciblée, c'est un tir à l'aveugle. Donc cet enfant a été touché alors qu'il n'avait rien à voir dans un éventuel conflit avec les autres. Voilà.
C'est clair. Malheureusement, ce petit jeune, Lionel, paix à son âme, n'avait que 16 ans. Ses copains avait entre 12 et 14 ans. Donc en fait, concrètement, c'est des gamins qui ont été touchés, comme tu le disais, par des tirs à l'aveugle. Ce petit jeune était vachement investi. C'était un acteur hein, de son quartier. Il tenait chaque jour une petite table. C'était un service qu'il rendait aux habitants de son quartier. Il tenait une petite table où il vendait des canettes, des cafés, des thés, une fois que tous les commerces du quartier étaient fermés.
C'était important de le redire. Merci, Morty. De toute façon, on va continuer à discuter pendant une heure ensemble sur ce qui s'est passé, mais pas que. C'est surtout comprendre en fait hein, ce qui se passe et les problématiques et élever un petit peu ce débat. Pour l'élever aussi, on est accompagné de Mohamed Boulawal. Vous êtes directeur de l'AJAC, donc c'est l'association jeunesse des Hautes-Garonne. Cette association, elle est présente depuis plus de 50 ans, donc sur le territoire de la rive droite, donc Lormont, Floirac et Senon. Donc votre mission principale, donc, vous avez des éducateurs de prévention et vous allez donc à la rencontre des jeunes et des familles pour co-construire donc des projets individuels ou collectifs. Peut-être que vous allez me donner un peu plus d'informations sur ce qu'est l'AJAC, puisque c'est un métier qu'on ne connaît pas forcément, un éducateur de rue, et quelles sont réellement vos missions.
Oui, oui. Alors l'AJAC, effectivement, est née en 68, hein, ça fait plus de 50 ans qu'elle existe. Alors elle est née sur la commune de Lormont, hein, puis dans les années 90, elle s'est développée sur les communes de Senon et Floirac. Donc c'est une association qui est habilitée par le département au titre de la prévention spécialisée. Alors c'est quoi la prévention spécialisée ? C'est un mode d'intervention qui permet d'aller vers les jeunes, hein, notamment les jeunes des quartiers prioritaires. Quartiers prioritaires au sens de la politique de la ville, hein, donc comme il y en a sur les trois communes de Lormont, Senon et Floirac. Et le travail consiste donc à aller vers ces jeunes, hein, donc âgés entre 11 et 25 ans, afin d'entrer en relation avec eux et de voir dans quelle mesure on peut leur proposer un accompagnement, hein, dans une démarche d'inclusion sociale et professionnelle. On est en lien avec quasiment tous les jeunes, hein, qui vivent sur ces quartiers prioritaires, hein, des communes de Lormont, Senon et Floirac.
Je pensais à ces termes que vous avez utilisés, hein, de politique de la ville. Donc, effectivement, ça ne parle pas toujours à tout le monde, hein, ce que c'est la politique de la ville. Quels sont les quartiers maintenant qu'on appelle les QPV, quartiers politiques de la ville ? Juste peut-être resituer un peu le contexte pour les auditeurs.
La dénomination a changé, hein. Maintenant, on les appelle les quartiers prioritaires, hein, mais qui sont finalement des quartiers qui sont inscrits dans le champ de la politique de la ville. Alors après, le principe, hein, enfin, du classement quartier prioritaire, c'est en fait de donner un peu plus de moyens, hein, donc à ces quartiers-là, hein, par rapport au reste des territoires de la commune.
Alors la politique de la ville, c'est aussi une dimension transversale, hein. Ça touche aussi l'urbain, ça touche le social, ça touche l'économie. Mais la politique de la ville, on va forcément en parler, puisque c'est elle qui a pour mission, en fait, effectivement, de pallier les faiblesses de ces quartiers, hein, puisque souvent, un des critères, et je crois que c'est le seul aujourd'hui, c'est la pauvreté,
c'est
pour
ça,
définir ces quartiers politiques de la ville.
Oui, 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 c'est un ensemble d'indicateurs, en fait, basés sur ce qu'on appelle ça des indicateurs de précarité. C'est sur la base, en fait, de ces indicateurs-là, enfin, qu'on va définir si un quartier est prioritaire ou pas. Donc on va regarder, hein, le taux de chômage, le taux de famille monoparentale, par exemple, le taux de famille bénéficiant, hein, des prestations sociales, de la CAF, et ainsi de suite. Hein, c'est cet ensemble d'indicateurs qui permet ensuite de classer un quartier comme étant un quartier prioritaire, au sens de la politique de la ville.
Voilà, c'est important d'en parler parce que c'est le seul critère que nous on va peut-être discuter pendant cette émission quand on définit un quartier ou un territoire. Donc on va peut-être parler d'urbanistique, hein, effectivement, cette concentration de grands bâtiments, des fois obsolètes, souvent, puisque quand on parle de renouvellement urbain, c'est bien parce que il y a des bâtiments qui n'ont plus lieu d'exister. Enfin, il y a plusieurs problématiques et puis ce critère de pauvreté. On va revenir sur ce qui s'est passé, mais surtout dire, vous, sur vos territoires, est-ce que vous constatez une montée de la violence ?
En fait, la première des violences, elle est sociale. Elle est vraiment sociale. Elle est économique. Les gens ont du mal à subvenir à leurs besoins. Les gens sont dans une précarité monstre et qui a été encore plus accentuée de par la crise sanitaire.
Il est aggravé, oui.
Tu as beaucoup de gens qui, dans ces quartiers-là, travaillaient, avaient de petits boulots, notamment dans la restauration, par exemple. Et on le sait, de par la crise, c'est un domaine qui est sinistré. Donc là,
oui,
depuis
même complètement
le premier confinement,
hein.
Il n'y a plus rien. Donc ces gens se retrouvent à la maison, souvent les uns sur les autres, parce que c'est souvent des familles nombreuses qui habitent des appartements assez vétustes. Donc même au niveau du confinement, on n'est pas égaux au niveau du confinement. C'est-à-dire, vous prenez une famille qui est confinée dans un petit appartement d'un quartier populaire et une autre qui est en campagne.
Une maison avec jardin.
Voilà, une maison avec jardin, etc. Ils vivent pas le même confinement.
Enfin, de la violence sociale, il y a quand même. Enfin, vous constatez quand même une hausse de la violence physique. Enfin,
forcément,
la violence,
forcément. C'est-à-dire, qui dit violence sociale dit violence physique, etc. Parce que les gens sont à cran. C'est-à-dire la moindre étincelle peut faire tout brûler, entre guillemets. Et on le voit avec tous les incidents qui se multiplient dans les quartiers populaires depuis le début de la crise.
Est-ce que pour vous, ces incidents sont éventuellement prévisibles ?
Moi, je dirais que oui, dans le sens où nous, déjà, en tant qu'acteurs associatifs dans ces quartiers, ça fait des années, ça fait plus de 2 ans qu'on alerte les pouvoirs publics sur la montée de cette violence, de la précarité, du chômage, etc. Donc, oui.
Oui, moi, je voulais répondre sur l'augmentation de la violence dans les quartiers. Alors, moi, je n'appelle pas ça des quartiers populaires, mais des quartiers pauvres. Parce que le terme populaire renvoie quand même à des schémas de pensée. Il y a une vie populaire dans les quartiers. Mm-hmm. Il y a une vie populaire, des gens s'en rencontrent, une espèce un peu de... Il y a un lien social qui existe, et ainsi de suite. Donc, on est dans quelque chose de populaire, dans l'entre-soi, en quelque sorte. Et malheureusement, ce n'est pas trop ce qu'on constate. Ce qu'on constate, ce sont plutôt des quartiers pauvres, et qui sont appauvris au cours de l'histoire, et qui finalement, sont de moins en moins populaires, puis de plus en plus pauvres, malheureusement. Après, sur la montée de la violence dans les quartiers, d'abord, il est difficile de pouvoir quantifier. Une violence, de quelle violence on parle ? Il y a tellement, il faut définir, parce qu'on entend quelle violence, pour apporter justement un jugement en termes quantitatifs, pour savoir s'il y a une augmentation ou pas, mais peu importe. Les études qui ont été faites sur justement la montée de la violence ont montré, je pense par un auteur qui a travaillé là-dessus, c'est Laurent Mukili, qui est un sociologue, qui a beaucoup travaillé sur la question de la violence, notamment dans les quartiers prioritaires. Et ce sociologue a montré qu'il n'y a pas d'augmentation de la violence. Il n'y a pas d'augmentation de la violence. Par exemple, si on compare la violence... alors après, encore une fois, tout dépend de quelle violence. Mais si on compare la violence d'aujourd'hui ou la façon dont les quartiers sont confrontés à des faits violents, aujourd'hui, si on compare aujourd'hui et il y a 20 ou 30 ans, il n'y a pas d'augmentation de la violence.
C'est-à-dire qu'on en parle plus aujourd'hui.
Mais par contre, ce qui a changé, c'est l'expression, donc la modalité de la violence. C'est vrai qu'elle est devenue plus...
On parlait de tir à l'arme automatique.
Exactement. Elle est devenue plus radicale. Donc les comportements sont plus radicaux. Parce qu'il y a un rapport à l'autorité qui a changé. Et puis aussi une cohésion sociale et territoriale qui n'existe plus. Comme il existait jadis, dans les quartiers. On a affaire à une violence qui s'exprime sur des modalités différentes par rapport à ce qui a été historiquement. Et puis, c'est vrai aussi que les réseaux sociaux ont là aussi beaucoup impacté, en fait, la manière dont s'exprime cette violence. Mm-hmm. Mais après, si on prend les faits, on va dire, caractérisés comme étant des faits de violence aux violents, ce que montre ce sociologue, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'augmentation en termes de nombre quantitatif de la violence. Mais par contre, ce qui a changé, c'est l'expression de cette violence, qui est devenue plus visible, plus radicale, avec effectivement parfois des armes à feu, comme ça s'est vu dernièrement. Et c'est vrai que ce sont des faits nous-mêmes plutôt nouveaux, pas que l'on constate aujourd'hui dans les quartiers.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années, comment est-il possible que des jeunes possèdent des armes à feu ? L'acte qui s'est passé le 2 janvier, il est extrêmement violent. C'est-à-dire, il faut rappeler les faits, quelqu'un qui sort de sa voiture et qui tire comme ça, au hasard, à l'aveugle. Et comment on peut expliquer cette aggravation de la violence ? La violence est toujours grave, mais...
Oui, alors moi, je pense qu'il y a au moins deux hypothèses. La première, c'est l'accès aux armes qui est devenu plus facile. Que précédemment, notamment là aussi, par les réseaux sociaux, l'Internet et ainsi de suite. Donc ces outils permettent aujourd'hui de pouvoir se doter d'armes plus facilement qu'il y a quelques années. Et puis on sait qu'il y a des réseaux, de ventes d'armes et ainsi de suite, qui existent et qui fonctionnent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus facile, qu'il y a par exemple 20 ou 30 ans, d'avoir une arme, notamment en passant par l'Internet et ainsi de suite. Donc l'Internet a rendu facilité donc l'accès aux armes, ça c'est un élément. Et l'autre élément, je pense qu'il est plus renvoie finalement à la question de l'autorité, du vivre ensemble au niveau d'un quartier. Et je crois qu'il y a aussi des choses qui ont changé à ce niveau-là, où on a des populations qui vivent de manière beaucoup plus éclatée, un lien social qui s'est effrité, donc un respect aussi de l'autorité ainsi de suite, qui a beaucoup évolué. Et c'est vrai que, on disait tout à l'heure, hein, donc aussi la précarité dont on a parlé tout à l'heure, je pense que ça aussi c'est venu à renforcer un peu ces phénomènes. Et c'est vrai que ça rend du coup le passage à l'acte, en tous les cas, de ces jeunes, plus facile, hein, plus facile et plus radical aussi, plus radical. Et je crois que ça c'est quelque chose qui est plutôt nouveau. Jadis, pardon, il y avait un respect des parents, il y avait un respect des grands frères, il y avait un respect de l'autorité, hein, donc voilà, donc dans le quartier. Il y a longtemps du village, hein, donc c'était peut-être le curé qui était le voilà qui servait un peu d'autorité morale et symbolique et ainsi de suite, hein, donc et ce respect-là faisait finalement qu'on n'allait pas sur des actes qui pouvaient être en danger les autres. Aujourd'hui, c'est vrai que tout ça a beaucoup évolué. Et je pense que effectivement, donc ce rapport à l'autorité et ainsi de suite, se sont nettement dégradés et rendant possible des comportements qui n'étaient pas jadis en fait.
Ce rapport à l'autorité, c'est qui autorité ? Parce que là, vous avez l'air de faire référence aux grands frères, aux parents, aux personnes du quartier référencées. Mais l'autorité, c'est aussi et c'est souvent ce qu'on parle, c'est donc la République, c'est l'État, c'est les institutions. C'est ce rapport-là aussi qui a évolué, qui a changé.
Il y a je pense.
Il y a plus de respect de ça, de ces institutions.
Alors, c'est pas qu'il y ait plus de respect.
Justement, c'est ce qu'on disait, c'est que comme elles se sont désengagées, il y a moins de. Oui, de respect de l'autorité, de la République, parce que elle n'est pas présente au quotidien.
Si vous voulez, pour qu'une autorité soit respectée, pour qu'une autorité soit respectée, il faut qu'elle soit incarnée. Hein, pour qu'elle soit incarnée, et c'est possible qu'elle puisse exister de manière continue. Hein, donc, on respecte son père parce qu'on voit son père tous les jours à la maison, et ainsi de suite. Hein, donc, il y a un cadre. Symboliquement une autorité, mais ça vaut aussi pour la République, en tous les cas, pour ce qui relève des instruments de la République. Hein, donc, et c'est vrai que si dans les quartiers aujourd'hui, cette République n'est pas incarnée par des organismes, notamment au cœur des quartiers, forcément, ça donne effectivement l'illusion que la République, effectivement, n'est pas... n'est pas là. Ou alors, elle n'est là que pour réprimander. Exactement. Elle n'est là quand il y a répression. Elle ne s'incarne que dans la répression, en quelque sorte.
Oui, tout ce qui est service public, c'est ce qu'on disait, que les services publics ont abandonné ces quartiers.
Si elle ne s'incarne que dans la répression, évidemment que les jeunes, à ce moment-là, ne seront pas dans ce respect, dans cette confiance, justement, à la République.
Mais en fait, limite, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire on subit une violence, donc on la renvoie.
Et, une violence institutionnelle.
Institutionnelle, dans le sens où, comme on disait, les services publics ont fui ces quartiers. Aujourd'hui, ce qui incarne la République et l'État dans les quartiers populaires pauvres, c'est la police. Et le rapport de la police envers ces jeunes est violent. Il est violent. Chaque contrôle est amené à déraper parce que de l'autre côté, les services de police arrivent avec un rapport violent et ils l'imposent. Ils essayent de s'imposer. Et moi, je pense vraiment que c'est loin d'être la solution. Moi, je me rappelle à mon époque, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait cette police de proximité.
C'est un vrai débat, ça. Hein.
Nous, on jouait au foot avec des policiers. Mmh. On les connaissait. C'était pour certains des copains. Des copains, on les voyait, on les respectait quand on les voyait avec l'uniforme parce que derrière l'uniforme, on connaissait l'homme qu'il y avait derrière l'uniforme. Et malheureusement, ça n'existe plus depuis Sarkozy. Hein, et ça a fait un grand défaut vraiment et à l'institution et au rapport qui a pu se mettre en place entre la jeunesse et la police.
C'est un vrai débat, cette histoire de police de proximité, mais je crois qu'effectivement, ça revient à chaque fois. Mais quand on parle d'abandon des institutions dans les quartiers, à quoi on pense d'autres en dehors de la police ? C'est quoi cette violence institutionnelle qui est ressentie par ces habitants et par ces quartiers ? C'est quoi les manquements institutionnels pour vous dans ces quartiers ?
Tout ce qui peut, encore une fois, incarner donc la République et les services publics au sein des quartiers, à mon avis, ne peut contribuer à renforcer comment dire, la cohésion, hein, donc à l'échelle du quartier, et le respect de ces populations vis-à-vis des services publics et de la République. Le fait d'avoir, par exemple, un bureau de poste dans un quartier, ça contribue à asseoir la légitimité, hein, donc de la République, enfin, dans un quartier. Le fait d'avoir une annexe de la mairie, ça contribue également. Le fait d'avoir des services sociaux, hein, dotés de vrais moyens, hein, ça contribue aussi, hein, donc à donner cette image, encore une fois, d'une République, enfin, qui se préoccupe de cette population, et ainsi de suite. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que c'est au moment où on a le plus besoin d'avoir du service public dans ces quartiers-là qu'il y a encore moins de services publics. Hein, que finalement, on les voit, on constate qu'ils partent les uns après les autres.
Donc ça enclave encore plus ces quartiers.
Mais ça enclave complètement, ça enclave encore plus ces quartiers. Et surtout, ça génère un sentiment, comment dire, une absence de reconnaissance. Hein, c'est comme ça qu'on mettons une absence de reconnaissance de la part de ces populations. C'est-à-dire, au fond, non seulement on vit dans la galère, mais en plus, on ne reconnaît pas. Hein, on ne reconnaît pas comme citoyen à part entière. Hein, on n'est pas considéré comme un tel ou un tel. Et parce que on n'est pas doté des mêmes services, hein, que n'importe qui. Et donc, ça crée des décalages,
oui,
ou des écarts.
Des
frustrations. Oui, puis des décalages qui sont réels, hein, donc, entre des populations qui ont le sentiment d'être délaissées, parce que, voilà, n'ont pas les mêmes services qu'ailleurs. Voilà, d'autres populations, enfin, qui, elles, peut-être bénéficient davantage, enfin, tous les avantages et ainsi de suite de la République. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a vraiment, à mon avis, urgence à remettre du service public dans les quartiers, mais également, je le disais, enfin, de l'humain au sens des professionnels de l'action sociale et des pouvoirs publics dans les quartiers. Et si on veut que, voilà, retrouver une forme de confiance, hein, et de reconnaissance de ces populations vis-à-vis de la République, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là.
C'est une forme de respect, en fait, qui se perd. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression, en tant qu'habitant des quartiers populaires, de ne plus être respecté par la République. Dans le sens où, très souvent, on nous renvoie à nos origines. Voilà, notre religion, comme pour nous sortir un peu de la communauté nationale.
Oui, voilà, nationale.
Voilà, c'est-à-dire, j'ai le sentiment d'être méprisé parfois par les institutions. On parlait du service public qui n'existe plus dans ces quartiers, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que beaucoup de démarches aujourd'hui sont dématérialisées. Et voilà, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire, étant donné la grande pauvreté d'une majorité de ces gens habitants de ces quartiers, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas les mêmes accès.
Aux outils numériques, etc. Et donc, ils ne sont pas à l'aise avec toutes ces démarches dématérialisées, par exemple.
C'est exactement ça.
Le public en lui-même est encore plus
inaccessible.
Voilà, distant, inaccessible. Enfin, en gros, je dois parler à un ordinateur, quoi.
Ouais.
Oui. Et si on n'a pas les codes qu'il faut pour l'utiliser? Les cordes au sens de la pratique.
Oui, hein, le savoir faire.
Je pense qu'on a voulu faciliter les choses de par la dématérialisation. Certes, ça l'est pour beaucoup de gens, la grande majorité, mais en même temps, on a exclu de fait toute une population d'un accès à leurs droits. Vous déposez un dossier à la CAF en passant par Internet, si vous n'êtes pas un expert, vous ne passez pas. Si vous n'êtes pas un expert de l'informatique, vous ne passez pas. Imaginez des gens qui ne savent ni lire ni écrire.
Faut-il avoir le matériel pour pouvoir accéder
à l'internet. Oui, c'est déjà le matériel pour avoir l'ordinateur, accès à Internet, et peut-être que maîtriser le français,
Oui. C'est vrai que sur l'histoire de matériel, durant la période du coronavirus, on a participé à une opération justement de remise de matériel informatique. Donc c'est un don, hein, ce sont des dons qui nous ont été attribués par Alors c'est Erasmus via le GPV, avec une distribution qui a été faite par la mairie de Senon. Et on a eu quelques ordinateurs qu'on a remis à des familles, hein, et on s'est rendu compte à quel point, effectivement, il y avait un manque, hein, en termes tout simplement d'ordinateur.
Oui, d'équipement. Ouais.
Un d'équipement, hein, enfin, dans ces familles-là. Et c'est vrai que dans la mesure où vous n'avez pas de matériel de ce type-là, mm-hmm. bah, l'accès au droit est forcément limité. J'ai envie de dire aussi. Enfin, là, c'était pour essayer justement que les enfants puissent accéder au travail scolaire, voilà, mm-hmm. à leurs cours.
Oui, comme Laurent qui a fait des prêts de tablettes via la cité éducative.
Tout à fait. On s'est rendu compte en fait qu'il y a beaucoup de familles qui ne sont pas dotées de moyens informatiques, par ordinateur. Donc il y a à la fois ça, puis le fait aussi, même s'ils ont le matériel qu'il faut, parfois ils ne savent pas l'utiliser.
Alors moi, ce qui m'étonne dans tout ça, on va peut-être recentrer un petit peu le débat, c'est que l'absence d'institution, ça fait des années que ça se dit, c'est pas nouveau. On parlait de Nicolas Sarkozy sur le débat de la police de proximité, c'est 2004, 2005, 2006, je sais plus exactement, c'est pas nouveau. Effectivement, le Covid a visibilisé toutes ces inégalités, on ne connaît pas ce que c'est la pauvreté, on ne la connaît pas, en fait, on ne la maîtrise pas. J'entendais des institutionnels, très peu, que je ne citerai pas, de dire il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui a filé entre nos doigts. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas, ça ne marche pas? Il y a des millions de budgets pour la politique de la ville, des millions qui sont consacrés aussi à l'urbanisme. Hein. On va pas donner les chiffres, mais il y a aussi des projets pour pallier en fait ces inégalités sociales. Comment ça se fait que ça ne marche pas?
Moi, j'ai l'impression en fait que les politiques sont déconnectées du terrain et de la réalité. C'est-à-dire on ne peut pas comprendre le quotidien de personnes, de gens qui vivent cette précarité tous les jours en étant dans son bureau à la mairie ou à la préfecture ou à l'Élysée. C'est-à-dire à un moment donné, c'est le terrain qui prime.
Oui, il faut venir voir de ses propres yeux.
Voilà, faut être acteur du terrain, sur le terrain. Il faut y être tous les jours. On ne peut pas... en venant une fois par mois avec des journalistes faire la tournée des quartiers, se rendre compte de la précarité que vivent ces gens-là. Et en plus de ça, le fait d'être déconnecté du terrain, ça fait pas avancer les choses dans le sens où on va trouver des solutions qui sont pas adaptées. Pourquoi ? Parce que
par manque de concertation
et par manque surtout de présence sur le terrain et aussi de travail en amont avec les diverses associations qui sont elles présentes et qui font un travail souvent remarquable avec des moyens toujours plus réduits.
Alors, moi, je ne serais pas aussi radical. Hein. je ne serais pas aussi radical dans l'analyse, mais parce que je pense que les problèmes sont complexes.
Bien sûr.
Je pense que les problèmes sont complexes et effectivement sont multifactoriels. Et finalement, la solution ou la réponse ne tient pas qu'aux politiques. Je pense que les politiques, effectivement, ont un rôle à jouer dans cette affaire-là. Il y a également, on l'a évoqué tout à l'heure, les entreprises privées et ainsi de suite, parce que là aussi, on parlait tout à l'heure de service public, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas non plus d'entreprises privées, par exemple, installées dans le quartier.
Oui, qui ont leur siège social.
On a une désertion, en quelque sorte, quasi générale, si vous voulez, de tout ce qui peut créer de la vie de quartier, donc dans ces quartiers-là. Tout ce qui peut produire de la vie de quartier au-delà des habitants. On a une désertion à ce niveau-là. Et quand je dis que les problèmes sont très complexes, par exemple pour ce qui est de la politique de la ville, qui consiste notamment à participer à financer les opérations de l'ANRU.
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Ouais. Voilà, donc, qui se décline par des opérations de réhabilitation ou de rénovation urbaine. Il y a beaucoup de rapports qui ont été faits là-dessus, suite justement à différentes opérations, qui ont montré par exemple que ces opérations-là ont permis de réhabiliter le bâti, c'est-à-dire les logements, mais que par contre, tous les aspects sociaux et qui sont importants pour ces populations-là n'ont pas été pris en compte dans les politiques qui ont été menées. Et du coup, on a, si vous voulez, des quartiers qui ont été refaits, qui sont qui peuvent être très sympas sur le plan esthétique, en quelque sorte, mm-hmm. mais Pour ce qui est d'un accompagnement social des familles qui y vivent, hein, de manière à ce qu'ils puissent être promus, hein, donc sur le plan professionnel et ainsi de suite, trouver un emploi et tout ça, ça n'a pas été fait. Et voire même, c'est l'inverse qui s'est passé. Hein, mm-hmm. On a eu un appauvrissement encore plus fort de la part de ces populations.
Donc et, ils sont plus pauvres dans un endroit plus joli.
On a gagné effectivement en quart de vie, mais on a beaucoup perdu sur le plan de la condition, hein, des conditions sociales de ces habitants-là. Et je pense que pour répondre à votre, oui. à votre question, pardon, je pense que c'est, si aujourd'hui on a du mal à trouver des solutions, et c'est vrai que ça fait des années, hein, que cette affaire dure. Oui. Hein, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein, qu'on a que des jeunes entre différents quartiers, voire même au sein d'un quartier, se tirent dessus, c'est le cas, on l'a évoqué sur Bordeaux, mais c'est malheureusement quelque chose qui arrive dans beaucoup de quartiers de France. Et je pense que le problème, encore une fois, il porte aussi sur la précarité dans laquelle ces familles s'enfoncent. Ça, aujourd'hui, le gros problème, je crois, c'est que sur un plan économique, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas au niveau de ces populations-là.
Oui, ça s'aggrave
d'autant plus que ces familles subissent des discriminations qui sont très très fortes, hein, du fait d'habiter un quartier comme les Aubiers ou Génicard ou Dravement et ainsi de suite. Tu parlais tout à l'heure du fait de se sentir méprisé, hein, parce qu'on a une autre identité, hein, pas que celle, pas que... Et je pense que le fait d'avoir le prénom qui ne colle pas forcément à l'heure du temps, tout un tas de choses qui viennent limiter ces populations dans leur insertion dans la société. Et ça génère de la frustration encore plus forte.
Plein de choses à dire encore. Moi, j'ai été très choquée. On parlait de stigmatisation, en tout cas sur les propos sur les réseaux sociaux. On va en reparler pour se voir effectivement qu'un enfant qui meurt dans un quartier n'a pas le même impact qu'un enfant qui serait mort comme tous les ans, noyé à la cano, quoi. Effectivement, j'ai été énormément choquée des propos. Sur les incohérences, des fois, des institutions, je vous propose juste d'écouter une partie d'interview d'un médiateur urbain, mais qui surtout l'a parlé en tant qu'habitant. Du quartier Grand Parc et de son arrivée donc en 2014, puisqu'il est arrivé en 2014 en France et à la fois dans le quartier Grand Parc. Et quand on lui propose un logement, vous allez écouter ce qu'on lui répond. Voilà, il s'appelle Ibrahim Maï, merci à lui pour le témoignage.
Quand j'étais dans mes démarches de logement, en tant qu'étranger et tout, auprès des bailleurs sociaux, une fois on m'avait fait une proposition dans un quartier, j'avais dit je ne voulais pas. Et la dame m'a dit, et pourtant, vous êtes de quelle origine? Je lui ai dit mon origine. Elle m'a dit, et pourtant, il y a beaucoup de Guinéens dans ce quartier-là. Justement, c'est ce que je ne veux pas. Donc, parce que je n'ai pas envie. Moi, je suis venu en France parce que c'est un pays d'ouverture, c'est un pays de mixité sociale. Donc, moi, je voulais vraiment cette mixité-là. Donc, je ne voulais pas venir me cantonner encore dans un quartier où on est tous, on ressemble encore comme si j'étais encore chez moi.
Moi, je trouve ça incroyable ce témoignage. Donc, on a cette vision d'un pays d'ouverture, de mixité sociale. On est heureux, donc, de sa part, en tout cas, de venir en France. On a une vision très positive de ce pays, alors que souvent, on nous fait croire le contraire, d'ailleurs. Hein, Et là, on vous propose d'aller... incroyable quand même qu'une institution réponde là il y a tant de Guinéens, vous avez qu'à aller avec eux. On sait dans nos quartiers qu'il y a des tours entières par nationalité. Comment c'est possible ça? Et ça se fait encore, quoi. C'est ça que je trouve incroyable. C'est ce que la République prône, en fait, cette mixité. Comment c'est possible encore? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
En 2021, c'est hallucinant d'entendre ce genre de témoignage, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. On nous bassine sans cesse avec le communautarisme, etc., etc. Alors que on le subit, en fait. Dans le sens où nous, on n'a jamais demandé à être regroupés avec nos co-religionnaires ou personnes issues des mêmes cultures que nous. Bien au contraire, on le subit parce qu'on ne nous propose pas d'autres alternatives. C'est-à-dire, on crée des ghettos. C'est une ghettoisation.
Oui, c'est que malgré tout le discours sur la mixité sociale, ça reste des discours. En fait, elle n'est pas effective.
C'est du vent. On le voit. Voilà. On le voit encore. On l'entend, en tout cas, avec ce témoignage. Et moi, je me rappelle La première fois que j'ai fait une demande de logement social, ben, le premier quartier qu'on m'a proposé, c'est les Aubiers. Voilà. On m'a dit, ben, si tu veux un appartement, dès la semaine prochaine, va aux Aubiers.
Alors, sur le témoignage, c'est vrai que c'est hallucinant, effectivement, d'entendre des choses pareilles. Effectivement, de vouloir comment dire, loger quelqu'un sur le critère ethnique, ça pose quand même des questions énormes. Donc, là, pour le coup, quand on parle de discrimination, là, en fait, il est révélé au grand jour. Quoi. Donc, parce que tu as cette couleur, donc on te met avec des gens de la même couleur. Hein, donc, et dans un pays, justement, qui ne reconnaît pas, qui ne tient pas compte des critères ethniques
oui,
dans en tout cas, les statistiques,
oui, c'est ça, officiellement, il n'y a pas de...
Voilà, voilà et justement, c'est au titre de cette volonté de considérer tout le monde de la même façon.
Oui, c'est ça, de dire que donc, la République est une et indivisible,
et là, n'est-ce pas et là, c'est vrai que c'est quand même impressionnant, que ce soit un bailleur social, qu'il vienne dire ça à une personne, il y a presque de quoi porter plainte. Bon, après, sur la mixité sociale, moi, j'ai toujours la mixité sociale. Il y en a qui la choisissent, il y en a qui la subissent. Vous avez, quand on construit un quartier, on va faire venir des populations ayant un autre statut social que les habitants historiques, on va dire, de ce quartier-là. Et ceux-là, souvent, font le choix de venir dans ce quartier-là parce qu'ils ont des moyens... qui leur permettent d'accéder. Alors parfois, ça peut être dans de la propriété. Vous avez des quartiers où il y a d'accès à la propriété, du locatif, et ainsi de suite. Et donc, il y a des gens comme ça qui viennent de l'extérieur, qui vont choisir dans ce quartier-là parce qu'ils considèrent que c'est un quartier sympa, et ainsi de suite. Et puis, vous avez à côté des habitants historiques de ce quartier-là qui sont depuis 30, 35 ans, 40 ans, et ainsi de suite. Mais ceux-là subissent finalement la mixité.
Parce que ils n'ont pas forcément les moyens d'en partir, même s'ils souhaiteraient éventuellement quitter le quartier, ils n'ont pas les moyens de partir.
Ils sont là parce qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas effectivement quitter ce quartier-là pour faire autre chose. Et donc vous avez une confrontation de deux populations qui ont des statuts effectivement différents, mais dont une qui a le sentiment de subir la mixité et l'autre de l'avoir choisi, parce qu'elle a les moyens qui lui permettent de le faire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent les moyens, le statut social finalement, qui fait qu'on est bloqué dans un quartier où on peut partir de ce quartier-là. Et quand il y a des gens qui est là aussi, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, parce qu'ils ne travaillent pas, parce que ainsi de suite, ils sont obligés de rester là. Mmh. C'est vrai que c'est difficile de
voir. Est-ce que ceux qui viennent ne sont pas considérés un peu comme des intrus?
Souvent, alors, ce qu'on constate quand même souvent, c'est que la mixité a du mal à prendre. Là aussi, si on se réfère aux rapports qui ont été faits là-dessus,
par
l'Observatoire national, ce qu'on constate, c'est que la mixité sociale, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire que souvent, les gens arrivent et repartent, en fait. Mmh. Ils arrivent dans un quartier, ils s'installent pendant un certain temps. Ils repartent au bout d'un an et demi, 2 ans, et ainsi de suite. Et on le voit sur les communes de la rive droite, par exemple, où il y a eu beaucoup de logements qui ont été construits, notamment dédiés donc à des populations ayant des statuts sociaux plus élevés. Mm-hmm. Et donc les gens arrivent, et souvent, en fait, ils vont utiliser finalement, donc l'arrivée dans cet appart ou cette maison comme un moyen pour rebondir sur autre chose. Donc ils viennent, ils y restent 1 ou 2 ans. Et puis après, ils repartent parce qu'ils ont acheté ailleurs. Donc, ils déménagent, ils repartent ailleurs.
Mais que pour ces gens-là, c'est qu'une étape.
Exactement, on trouve mieux. C'est transitoire. C'est transitoire, donc on passe à autre chose. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a du mal à prendre, quand même.
Primo-accédant qui se dit, sur la rive droite, c'est pas trop cher, donc pour un premier achat, ça va. Et par contre, quand on aura les moyens d'acheter plus cher ailleurs, on ira ailleurs.
Tout à fait. Tout à fait, parce que souvent, ce sont quand même des logements qui sont attractifs sur le plan du prix, qui sont proposés. Pour quelqu'un, parce que là aussi, je le disais, parce que les gens qui arrivent en général sont des gens qui sont sur des statuts sociaux plus élevés que les populations qui sont déjà là, en fait. Mm-hmm.
Plus classe moyenne.
Classe moyenne, voire acte supérieur, d'ailleurs, parfois, qui passent par là, puis après, qui partent pour autre chose.
Il nous reste plus très longtemps pour cette émission. Je voudrais faire juste.
Je voulais juste rebondir et revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la ghettoisation de certains quartiers. Il y a un sociologue qui s'appelle Pascal Blanchard qui en parle très bien. En fait, il y a un traitement colonial.
C'est un historien d'ailleurs.
Historien. Il y a un traitement colonial en fait qui des quartiers populaires, c'est-à-dire des limites. Je ne veux pas reprendre son propos, mais
on les traite comme des colonies.
Voilà, quelque part, ce qu'il disait, c'est après les colonies. Au moment des indépendances, en fait, les travailleurs français qui travaillaient dans ces colonies ont été rapatriés et on les a mis dans pour gérer les quartiers populaires, enfin les quartiers pauvres, pour faire plaisir à Mohamed. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, moi, je trouve ce traitement très juste. J'ai écouté un peu son propos et je le trouve très réaliste parce qu'il y a un fantasme derrière, on en revient toujours à ça. Je sais que je vais peut-être paraître un peu radical, mais je le pense vraiment parce que c'est un constat. C'est un constat.
Après, ça engage votre avis, hein, c'est ce que vous ressentez. Après, effectivement, on parle de racisme systémique.
Les indigènes de la République, etc.
Voilà.
Fait que la France aurait pas complètement évolué sur ces questions-là, quelque part. Quoi. Enfin, ok, on n'a plus de colonies, donc officiellement,
Mais on a toujours dans les quartiers.
Mais ces populations, donc, comme on dit, issues de l'immigration, finalement, ne sont pas intégrées comme elles devraient l'être. Quoi.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son film nous apprend énormément de choses et à quel point on ne nous apprend pas notre histoire française et cette histoire-là, en fait, je veux dire, surtout cette histoire, et que c'est choquant. Mmh. C'est sûr que. Enfin, je ne sais pas si Coralie nous a eu l'occasion de le voir, mais
pas vu ce film.
C'est un film documentaire, et quand on le voit, on se dit mais comment donc c'était dans les années 50-60, donc pas si vieux que ça, on a pu maltraiter à ce point-là les personnes en colonie, ça c'est sûr. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Mohamed Boulawal.
Alors je l'ai pas vu, et c'est vrai que c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup véhiculé, hein, donc ce que tu disais à l'instant, hein, par rapport à cette idée de reproduction, finalement, donc entre la manière dont les colonies ont été appréhendées et puis la façon dont aujourd'hui on appréhende finalement les habitants des quartiers, comme si c'est quelque chose qui se répétait en fait, dans la gestion des quartiers pauvres. Alors c'est vrai que moi j'ai un regard un peu nuancé, hein, sur ces questions-là, parce que quand on regarde un peu ce qui se passe, bon, on se rend compte quand même qu'il y a des différences, que c'est d'abord une histoire de, une question de personnes, hein, qui interviennent, hein, dans ces quartiers-là, et souvent je pense pas, si vous voulez, qu'il y ait une espèce de démarche instrumentalisante ou instrumentalisée ou globalisante, hein, qui viendrait un peu, je ne pense pas. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a effectivement beaucoup à faire dans la manière de porter le regard, hein, donc sur ces quartiers-là. Et le regard qui est porté sur ces quartiers-là aujourd'hui est un quartier, mais j'ai envie de dire, et s'est porté au plus haut niveau, hein, donc je dis au plus haut, y compris sur le plan des politiques, est un regard qui vise à davantage desservir, hein, donc ces populations plutôt qu'à les servir. Et malheureusement, dans une période de coronavirus, qui a beaucoup impacté ces populations, ce sentiment justement d'être délaissé est encore vécu de manière encore plus forte aujourd'hui.
C'est vraiment un stigmate de la pauvreté. Il y avait une affiche, l'autre fois je suis tombée dessus dans les halls de la gare, de la Fondation Abbé Pierre, sur arrêter d'étiqueter les pauvres, plus qu'une, presque une nationalité, hein, c'est vraiment même les pauvres, et aussi de dire qu'il faut 6 générations aujourd'hui pour sortir de la pauvreté.
Oui, un enfant qui a un post-it collé sur le front.
Voilà. Et c'est une réalité, en fait, rapport de la Fondation Abbé Pierre, c'est-à-dire que l'égalité des chances, l'ascenseur social ne marche plus.
Il est en panne, j'ai pris les escaliers. Je ne sais plus qui avait dit ça.
Et qu'effectivement, peut-être que la première chose, c'est déjà changer de regard. ce n'est pas suffisant, mais quand on change de regard, on enlève effectivement les discriminations liées aux clichés, aux stigmates. On parlait de l'emploi, on a très peu parlé, mais effectivement, il y a aussi discrimination à l'emploi, on le sait, à l'adresse, ça existe toujours. Il y a un manque de reconnaissance. Plein de choses qui expliquent, en tout cas, qui sont les terreaux d'une violence. Peut-être l'effet miroir, comme vous le disiez, Morty. Je pense qu'on va arriver vers la fin de cette émission. Je voulais aussi qu'on écoute... il y a eu les vœux de Pierre Urmic, hein, puisque on revient sur le local, effectivement, à Bordeaux, qui a été longtemps une ville plutôt considérée comme très tranquille. Je ne sais pas d'ailleurs quelle explication on peut donner à ça. Pourquoi une grande ville comme Bordeaux, finalement, n'avait jamais eu trop de problèmes? En tout cas, ces phénomènes qu'on peut connaître dans d'autres villes. Hein. Moi, j'ai vécu dans d'autres villes bien plus petites, avec beaucoup plus de problèmes. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi Bordeaux ne les a pas eu jusqu'ici? Pourquoi les a aujourd'hui? Et après, on écoutera une interview de l'adjoint à la sécurité. Est-ce que vous avez une explication à ça, vous? Voilà. Pourquoi Bordeaux, aujourd'hui... en tout cas, on en parle. Alors, est-ce que c'est juste qu'on en parle? Ou est-ce qu'il y a quand même une violence qui a augmenté? Et pourquoi ?
Non, alors, ce qui est arrivé à Bordeaux, est arrivé déjà donc ailleurs à plusieurs reprises. Il peut arriver n'importe où. Je pense pas, mais en même temps, je pense pas qu'il y ait encore une fois une montée de la violence. Je ne pense pas. Je pense que ce qui a changé encore une fois, c'est l'expression de cette violence, qui est devenue beaucoup plus visible, plus palpable, plus radicale, plus facilitée par les réseaux sociaux. Ça, c'est un fait. Après, pourquoi Bordeaux, c'est difficile de répondre à une telle question parce que, encore une fois, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut arriver n'importe où.
J'ai envie de demander pourquoi Bordeaux n'avait jamais jusqu'ici pas eu trop de problèmes, finalement. C'est une ville qui était plutôt paisible là-dessus.
Oui, c'est vrai. C'est
mais
vrai,
pourquoi
c'est vrai.
Est-ce qu'il y a une explication?
Moi, je pense que Bordeaux, depuis un certain nombre d'années, c'est une ville où il fait bon vivre.
À Marseille aussi, voilà. J'ai envie de dire.
Oui, mais les gens trouvaient assez facilement de l'emploi. Moi, je me rappelle, en arrivant à Bordeaux, moi, je viens du Nord, du Havre, une ville sinistrée. En arrivant à Bordeaux, j'ai trouvé directement du travail. À l'époque, c'était en 2000. Il y avait une grosse société Acestas Solectron qui fabriquait des téléphones portables et voilà, moi je me rappelle qu'on se croisait avec plein de jeunes des quartiers, que ça soit de Senon, de Lormont, de Pessac, de la gare, du Grand Parc, etc. Et on se retrouvait tous en tant que employés de cette grande entreprise. Donc en fait, quand t'es occupé et que tu as de quoi subvenir à tes besoins, limite, tu profites, en fait. Tu vis, tu pars en vacances, tu vas à l'été.
Faut dire les choses clairement, en gros, on fait moins de conneries, quoi.
Ouais, oui. Quand on a de l'argent, on va pas...
Ouais, c'est vrai que le Bordeaux, tu as raison.
Il y a plus de population, je pense que c'est aussi qu'il y a un peu moins de travail.
Ouais. Après, et à la fois, ce que tu dis par rapport au fait que Bordeaux est une ville où il fait bon vivre, et ça, c'est, ça aide à tenir le coup. Parce qu'il vaut mieux être pauvre au soleil, au bord de la mer, qu'être pauvre, je sais pas.
Non.
C'est vrai que c'est quand même un élément important, qui impacte aussi la vie en général et celle des jeunes en particulier.
Et l'état d'esprit, je pense.
Et un autre élément aussi, à mon avis, qu'il faut se relever, c'est que Bordeaux. Comparé, si vous voulez, alors à d'autres villes de même taille, voire de taille plus importante, est une ville dans laquelle finalement les processus de ghettoisation ne sont pas aussi marqués qu'ils le sont dans d'autres villes, notamment en région parisienne par exemple ou ailleurs. Et là-dessus, il y a des études qui ont été faites là aussi sur la manière dont les villes finalement sont construites, sont organisées. Une ville, ça se construit, ça s'aménage et ainsi de suite. Et c'est vrai que les modes d'aménagement de la métropole, et notamment de la ville de Bordeaux, et puis finalement la gestion de la population, c'est fait quand même sur des modalités, on va dire, plus souples, moins ghettoisées. Que ce qu'on peut retrouver dans d'autres communes. Et du coup, les rapports de communauté, en quelque sorte, ils sont moins affirmés que ça peut être le cas dans des communes où vous avez... moi, je vous renvoie, par exemple, au livre de La Pierronie sur le ghetto urbain. Hein, il a fait une étude, alors pour le coup, ça m'a pas du tout dans une grande ville, c'est Angoulême, hein, c'est pas très loin d'ici.
Il y a des problèmes, oui.
Mais voilà, où on a, si vous voulez, des constructions.
Moyenne,
pardon.
Oui, je dis qu'il est pourtant une ville de taille moyenne de province, mais avec, on pensait que c'est une ville tranquille,
voilà,
et finalement.
Mais avec des quartiers très enclavés, hein, donc, des séparations très fortes et ainsi de suite, et tout ça a favorisé, hein, des processus de ghettoisation. Et c'est vrai que derrière, après, ça génère effectivement des problèmes de violence, voilà, qui sont peut-être un peu plus importants. Donc Bordeaux a mieux absorbé en fait tout ça par rapport peut-être aux
Bordeaux
autres.
Bordeaux est moins ghettoisé d'après vous, même s'il y a quand même des quartiers,
quand même
voilà, les Aubiers, et Grand Parc,
oui, ça reste
qui sont un peu stigmatisés.
Complètement.
Il faut dire aussi que Bordeaux, de par sa situation et son emplacement géographique, est devenu un lieu de passage où. Où on a beaucoup de populations qui, je ne dis pas que c'est ce qui fait, ou en tout cas ce qui a accru la violence à Bordeaux, mais c'est une ville où on voit beaucoup de gens fuir les guerres, beaucoup de réfugiés arriver. Et je pense par exemple à des problématiques liées. Entre guillemets, hein, je ne veux pas stigmatiser ou généraliser, mais à des populations très précaires, très pauvres, qui sont abandonnées par les pouvoirs publics, hein, comme les mineurs, isolés, par exemple, hein, qui n'ont pas d'autres alternatives que d'aller survivre comme ils peuvent, c'est-à-dire et aussi
en volant, voilà. Enfin bon, bref, qui tombe dans la délinquance de fait parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens.
À côté de ça, il n'y a pas de réponse sociale, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de.
Oui, comme vous dites, ils se retrouvent dans des squats et donc forcément, il y a un moment, faut manger comment on fait quoi.
Faut vivre.
On va terminer cette émission parce que je crois qu'on dépasse même.
Un dernier mot.
Non, je voulais te donner la parole aussi.
Ah oui, pardon. En fait, on a lancé justement une pétition avec plusieurs associations pour contraindre la préfecture à ouvrir des lieux, à mettre en place le plan Grand Froid. Oui. Et ouvrir notamment des gymnases, des lieux d'accueil, parce qu'il y a de plus en plus de populations de jeunes qui dorment à la rue. Et on le voit tous les jours au lac de Bordeaux et dans le centre.
Très bien. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ou vous voudriez rajouter un mot pour terminer cette émission ?
Alors moi, je voudrais juste rajouter en fait deux choses, mais très rapides. Hein. La première, je pense que c'est important d'être précis sur les termes et d'employer le terme bande de jeunes, ça me gêne un peu, hein, dans le sens où j'ai pas le sentiment qu'on est face à des bandes qui seraient organisées avec un chef, voilà, qui piloterait tout de sa place. Là aussi, hein, je renvoie aux études qui ont été faites là-dessus et qui montrent bien qu'il n'y a pas de bande, mais il y a des groupes de jeunes, hein, qui, de façon très aléatoire, j'ai envie de dire, vont se retrouver pour régler des comptes. Ah, donc, et souvent, ça part d'une embrouille, mais alors parfois, enfin, très bénigne, hein, pas grand-chose. Donc, parce que problème, si on emploie le terme bande pour qualifier ce qui s'est passé récemment et puis ce qui peut se passer aussi, ce qui se passe ailleurs, ça supposerait qu'on serait dans quelque chose de complètement organisé en quelque sorte.
Oui, vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse du Pierre Hermite qui parlait quand même en gros de crime organisé.
Non, je ne partage pas cette analyse. Je pense encore une fois que certes, donc le drame encore une fois, il n'est pas du tout à contester. Mais par contre, je ne pense pas, si vous voulez, qu'il y ait quelque chose de organisé, hein, donc de prémédité en quelque sorte derrière tout ça. La deuxième chose, souvent, on a tendance aussi à renvoyer la faute sur les parents.
Et malheureusement, on n'en a pas parlé, mais je voudrais que vous en parliez effectivement, parce que c'était quelque chose de...
Très vite pour dire que c'est comme à chaque fois, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il faut trouver un bouc émissaire. Et en l'occurrence, là, c'est toujours facile de pointer les doigts. Les parents, comme ne faisons pas leur travail de parents, voire même... cautionnant et peut-être même participant donc à ce qui s'est passé. Alors je conteste complètement ce point de vue. Je crois que les parents de ces jeunes, hein, sont comme tous les parents et n'ont pas du tout envie que leurs enfants se livrent donc à de telles atrocités. Mais plutôt afin que de remettre la faute sur les parents, je pense qu'il faut s'interroger sur ce qui a amené les parents à être finalement dans ces positions-là où ils ont plus de contrôle sur leurs enfants. Et donc là, revenir un peu au processus qui a amené ses parents donc, à être dans cette fonction où ils n'ont plus de prise sur leurs enfants. Et donc ça veut dire qu'il faut réfléchir aussi à comment redonner une place à ses parents pour qu'à leur tour, ils puissent se sentir respectés. Ça passe à la fois par un statut social qui soit consolidé,
reconnu.
Et puis ça passe aussi par effectivement le fait de le reconnaître comme étant des parents responsables à part entière et non pas comme des parents défaillants. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, et c'est comme ça peut-être qu'on peut aussi arriver à compter sur eux pour qu'ils puissent servir de régulateurs en quelque sorte dans ces quartiers-là.
Ça, c'est quelque chose d'important parce que je rappelle quand même que vous êtes directeur de l'AJAC, donc l'association jeunesse Haute-Garonne. Donc vous avez plusieurs éducateurs. Donc les éducateurs, on est bien dans la co-éducation, j'imagine. Les éducateurs que vous pilotez donc sur les villes de Soufflarac, Senon et Lormont font un travail aussi avec les familles. C'est pas seulement les jeunes, qu'on soit bien d'accord. Vous faites un travail aussi avec toutes ces familles pour les soutenir.
Tout à fait. Oui, tout à fait. On fait un travail avec les familles et pour nous, les parents sont des partenaires, ne sont pas des usagers ou des bénéficiaires des actions de l'association, mais à chaque fois que nous sommes en lien avec leurs enfants, notamment les mineurs, on les associe. On les associe comme étant des partenaires dans le travail à faire avec leurs enfants. Et donc, ce qui du coup vient aussi les valoriser dans la fonction parentale, parce qu'on les resitue dans cette fonction-là, et on leur donne donc une possibilité de pouvoir jouer leur rôle pleinement auprès de leurs enfants, et ça marche plutôt bien. Donc c'est vrai que c'est, je crois, important de voir ça de manière un peu plus globale et de ne pas simplement se contenter de désigner du doigt donc des responsables, parce que tout à l'heure on parlait de stigmatisation. Là, pour le coup, on ne fait que renforcer des stigmates en direction de personnes qui sont déjà en difficulté, sur le plan économique notamment.
Merci Mohamed Boulawal. Juste, je voulais terminer avec vous, Morty, aussi, parce que je ne vous ai pas présenté, on n'a pas présenté Diamant des Cités, alors on a moins le temps là. Diamant des Cités, c'est pourquoi ce nom d'ailleurs ?
Nous, on part du principe que nos quartiers sont des mines de diamants. En fait, un diamant brut n'a aucune valeur. Le diamant, en fait, c'est quand il est taillé, quand il est accompagné, quand il est choyé, qui prend de la valeur et qui brille. Voilà. Donc moi, ce que j'essaye de faire avec mon association, c'est justement tailler des petits diamants, les trouver, les tailler et les mettre, les faire briller. Alors, il y a juste un dernier point sur lequel je voulais rebondir et qu'on a oublié un peu d'évoquer, c'est la culture. La culture manque dans nos quartiers. Il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'atelier. Et la culture, l'art en général, est un vecteur d'émancipation.
Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion ce lundi à partir de 16h, mercredi 9h, et bien sûr en possibilité de la réécouter sur le site internet www.audioradio.fr avec un complément d'informations sur les réseaux sociaux. On donnera bien entendu le site de la JAG et aussi le site de Diamant des Cités. Mais en tout cas, merci à vous Morty et Mohamed Boulawal. Et on se quitte en musique avec une chanson qui parle des banlieues mais qui est plutôt génération années 80. Alors on y va.
Se taise et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux. sous pipé. Hiver et glace, été et feu. Ici y a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici, entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livre, je franchirai tous ces murs.